France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Les ombres de la dernière guerre civile planent encore sur la société syrienne. En fuyant Damas le mois dernier, Bachar al-Assad, on l'a beaucoup dit, a laissé un pays exsangue, mais plus encore, par-delà l'écran de joie qui rassemble largement les Syriens depuis quelques semaines, le risque qui court aujourd'hui à travers le pays est de souffrir de ses divisions, de son morcellement, de ses dissensions ethniques et confessionnelles, de ses oppositions armées aussi. La nouvelle coalition à Damas, emmenée par HTC, a une mission première, recoudre le tissu social syrien. Mais comment peut-elle s'y prendre? Pour tenter de répondre à cette question, trois invités ce soir. Camille Neveu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef adjointe du service étranger de Libération. Vous êtes l'autrice de cet ouvrage qui a paru aux éditions Jean-Claude Lattès et intitulé « Le verger de Damas ». Avec nous également Anthony Samrani, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef de L'Orient Le Jour et avec nous aussi Garance Lequen, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à la Tribune Dimanche et vous revenez de Syrie. Merci à tous les trois d'être présents ce soir dans Question du Soir. Est-ce que vous êtes, Camille Neveu, peut-être pour commencer, d'accord avec cette première affirmation que la priorité de la coalition, la nouvelle coalition désormais qui dirige la Syrie, sera sans doute de recoudre ce tissu social syrien abîmé, détruit par 13 années de guerre civile?
Effectivement, et c'est une de leurs priorités parce qu'ils ont besoin aussi de ce tissu social qui est extrêmement divers. La vie à Idlib n'est pas la même forcément qu'à Damas ou même que la banlieue de Damas, par exemple des villes comme Daraya ou Douma, ou au sud, Souaïda, qui est un bastion de ruse. Et la nouvelle coalition au pouvoir menée par HTC, c'est tout ça. Et elle connaît aussi la vitalité de ce tissu. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, je trouve, quand on parle de reconstruction de la Syrie, c'est qu'en fait, on a l'impression de découvrir ce qu'était la vie sous ce régime avec les images affreuses des prisons, la prison de Sednaya, etc. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans certaines villes, il y a eu, sous cette dictature d'Al-Assad qui a duré 54 ans, il y a eu quand même un début de vie politique, d'organisation de la société civile. Je pense notamment à une ville que je connais bien, qui est la ville de Daraya, en banlieue de Damas, qui est la ville de mon mari, et dont je parle dans le livre Le verger de Damas que vous avez cité en préambule. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Daraya, en fait, dans les années 90, dans les années 2000, vous avez un groupe de jeunes qui ont essayé d'organiser un semblant de vie politique en créant une bibliothèque, en nettoyant les rues de leur ville, en lançant une campagne contre la corruption. Tous ces jeunes-là ont fini en prison pendant des semaines, pendant des mois. Au moment de la révolution, ces jeunes se sont de nouveau mobilisés. Ils ont notamment créé des conseils locaux qui étaient des sortes de mairies bis qui ont été élus au milieu des bombes, démocratiquement si je puis dire, et aujourd'hui tous ces gens-là de nouveau se mobilisent pour reconstruire leur pays. Ils ont mis en place notamment à Daraya une cagnotte qui a récolté 40 000 euros pour pouvoir payer des policiers. Ils ont recruté en fait des gens parmi les habitants pour pouvoir assurer la sécurité de leur ville. Ils ont aussi commencé à réfléchir comment reconstruire les routes, les canalisations, le réseau d'électricité, les écoles. Est-ce qu'il faut construire un hôpital ou pas parce qu'il n'y avait pas d'hôpital à Daraya? Alors ça, visiblement, tous les soirs, en fait, ces jeunes se réunissent sur WhatsApp, discutent pendant une heure, pendant deux heures, sous forme d'atelier, pour savoir comment s'organiser et aussi comment coordonner tout ça avec la coalition HTC. Il y a des infrastructures, par exemple, ils estiment que ça doit être reconstruit par l'État lui-même, par exemple les routes, les écoles, les hôpitaux. Mais voilà, en tout cas, il y a un début d'organisation au niveau local dans la reconstruction qui est assez intéressant. Je sais qu'il y a aussi des initiatives similaires à Douma, à Alep, et tout ça, pour moi, c'est effectivement assez positif.
On parle beaucoup, Anthony Samrani, de ce pays, la Syrie, comme une véritable mosaïque, une mosaïque confessionnelle, une mosaïque ethnique. Est-ce que le sentiment national, le sentiment d'être syrien existe tout de même largement? Est-ce qu'il dépasse justement ces divisions communautaires, disons?
Je pense qu'on est dans une région, au-delà de la Syrie, où l'identité, elle est toujours plurielle. Donc effectivement, on peut se sentir à la fois alaouite, vivant au bord de la côte syrienne, et en même temps profondément syrien. C'est-à-dire que l'une des identités ne prend pas nécessairement le pas totalement contre sur les autres. Et pour revenir à votre première question, le grand intellectuel syrien Yassine Hach Saler explique que la particularité du régime syrien, c'est qu'il a totalement réussi à dépolitiser la société. Il a les Assad se comportaient vraiment comme s'ils étaient propriétaires du pays. Ça va au-delà d'une dictature traditionnelle. Et là, effectivement, le principal enjeu, selon lui, c'est l'inclusivité. L'inclusivité entendue au sens confessionnel, au sens ethnique, les Kurdes, les Arabes, mais surtout au sens politique, c'est-à-dire remettre de la pluralité, remettre du débat, remettre du compromis dans la vie politique syrienne. Et ça va être extrêmement difficile d'une part parce que ça a été complètement annihilé pendant des décennies, et en même temps, comme le rappelait Camille Neveu, les Syriens aujourd'hui font preuve d'une maturité à ce niveau-là qui est tout à fait étonnante, encore plus quand on compare à d'autres pays dans la région, et on voit des signes très positifs.
Garance Lequen, est-ce que vous abondez ? On l'a dit, vous revenez de Syrie, je vous ai même vu juste avant votre départ il y a quelques semaines, lorsque vous êtes parti. Est-ce que vous constatez vous aussi, sur le terrain, dans vos rencontres, parmi les personnes aussi que vous avez revues et retrouvées, cette maturité syrienne ?
Oui, effectivement, mais je voudrais revenir sur votre première question. Je pense que ce qui s'est passé le 8 décembre, c'est pas la fin de la guerre civile, c'est la fin d'un régime dont je ne sais même pas comment on peut le définir, d'un régime qui durait depuis 54 ans. Donc là, les Syriens ne sont pas en train de bâtir un pays après une guerre civile. Ils sont en train de bâtir un pays après 54 ans de dictature, de totalitarisme, je ne sais pas comment définir ce régime. C'est pas juste une guerre civile, et en plus plusieurs chercheurs emploient le terme de guerre au civil. N'oublions pas quand même que le principal criminel dans ce qui s'est passé depuis 2011, c'est le régime syrien. Ce ne sont pas les mouvements rebelles armés ou même Daesh qui ça peut paraître bizarre, mais qui ont beaucoup moins commis de crimes que le régime lui-même. Donc c'est là où, en prenant l'ampleur de ça, on mesure effectivement la maturité de ces Syriens. Moi, j'ai été... mais depuis 10 ans que je travaille sur la Syrie, enfin depuis 2011, je suis à chaque fois stupéfaite par la communauté syrienne, parce qu'il y a une maturité absolument incroyable, une dignité, une humanité. Et effectivement, à Harasta, dans la Ghouta orientale, qui a subi un siège entre 2016 et 2018, la fin du siège 2018, je crois qu'il a démarré en 2016, si je ne me trompe pas, Camille pourra me confirmer ou pas. Et en fait, ils ont dû quitter la ville de Harasta, ils ont été envoyés dans la poche d'Idlib, quand le régime a repris cette ville, et ils sont revenus après le 8 décembre, et une des premières choses qu'ils ont faites, c'est de mettre en une sorte de résidence surveillée deux hommes du régime qui n'ont pas réussi à s'enfuir, qui n'ont pas eu le temps de s'enfuir. Pourquoi ? Pour pas qu'ils soient tout simplement abattus et qu'il n'y ait pas de vengeance. Et ça, c'est quand même, c'est impressionnant, parce qu'ils arrivent dans une ville qui est à 70% détruite, c'est-à-dire que vous pouvez filmer une vidéo de plusieurs minutes en voiture, plusieurs minutes avec que des immeubles, ce ne sont que des carcasses d'immeubles. C'est vraiment impressionnant, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et en fait, leur but, le conseil local de transition qui vient de s'installer à Harasta, c'est de mettre ces deux hommes en leur disant « Bon, maintenant, vous ne sortez pas de chez vous parce qu'on voudrait vous protéger en attendant qu'un système, un nouveau système judiciaire soit mis en place. » Justement, pas de vengeance. Et ces gens-là, qui sont-ils ? Ce sont ceux, c'est ce que racontait aussi Camille, en 2011, qui ont lancé cette révolution. Leur but, c'est une révolution pacifique, non violente, non confessionnelle. Et ils reviennent beaucoup plus âgés. Ils reviennent et ils sont dans la même optique, c'est-à-dire qu'ils veulent un pays non confessionnel, non violent, voilà. Et ces gens, ils sont forts de cette mémoire de la révolution. Ils sont forts aussi, malheureusement, de leur souffrance. On en reparlera. Moi, j'ai été bouleversée par cette terre de souffrance à nouveau. Enfin, c'est inimaginable.
On y reviendra, oui.
Ce que les Assad ont fait à cette population. Mais voilà, je suis aussi stupéfaite par cette maturité, par ces acquis de la révolution. Et c'est ce qui apporte effectivement un espoir pour le futur.
Mais tout de même, Camille Neveu, sur l'idée de vengeance, au-delà des mots d'ordre, au-delà des consignes qui sont passées par plusieurs dignitaires et par plusieurs responsables politiques, est-ce que la communauté alaouite, la communauté à laquelle appartenait le clan Assad, a à craindre de certaines représailles de la part de la population syrienne aujourd'hui ?
Alors, on sait que le groupe HTS a lancé une campagne visant à traquer donc ces criminels du régime. Il y a eu des arrestations violentes, plusieurs personnes, notamment Mohamed Kanjo Hassan ces derniers jours, qui était directeur de la justice militaire du régime, notamment pour la prison de Sednaya. Mais il y a eu aussi un homme d'affaires qui a été arrêté, officier supérieur, commandant de milice. Et en fait, on n'a pas aujourd'hui de preuve de l'existence d'un passage devant des tribunaux, de poursuites, de condamnations. On ne sait pas non plus où ces gens-là sont détenus. Et pour moi, c'est vraiment une question très importante, cette question de où ces criminels du régime qui doivent être jugés, parce que c'est l'espoir des Syriens jugés en Syrie. On ne sait pas aujourd'hui où ils sont détenus. Et ce qui, moi, m'inquiète, c'est qu'on sait que le groupe HTC, Hayat al-Sham, et le groupe Le Front al-Nosra, auquel appartenait avant cela Abou Mohammad al-Joulani, donc qui est le président, on peut dire, de facto aujourd'hui intérimaire de la Syrie, on sait que ces groupes-là ont commis des tortures sur les prisonniers qu'ils ont détenus. Et donc, ce serait vraiment, je pense, un drame pour ce pays et pour ces Syriens qui veulent une justice transitionnelle, de constater que en fait les bourreaux du régime Assad soient malmenés, soient tués ou disparaissent sans qu'ils puissent être jugés.
Anthony Samrani, un des dizaines de partisans du président déchu, dont des officiers et des soldats, ont été arrêtés ces derniers jours par les autorités libanaises, remis d'ailleurs au pouvoir de Damas directement. Selon la presse libanaise, certains de ces officiers, de ces soldats, faisaient partie de la fameuse 4e division, la garde prétorienne du régime d'Al-Assad. Comment ces soldats ont-ils été remis à la Syrie? Quel rôle a joué le Liban dans ce travail?
C'est assez intéressant parce que le pouvoir syrien était quand même, enfin le pouvoir du régime syrien, du régime Assad, était quand même très puissant au Liban jusqu'à récemment. Et le simple fait que les autorités libanaises, entre guillemets, jouent le jeu, montre d'une part, bien sûr, la conséquence de la chute du régime, mais aussi de l'affaiblissement du Hezbollah au Liban, sans quoi ça n'aurait pas été possible. Toutefois, là où il faut quand même rester nuancé, c'est que des plus gros bonnets, dirons-nous, ont, semble-t-il, quitté la Syrie via le Liban, ou en tout cas ont quitté cette région via le Liban, ou peut-être même sont encore réfugiés au Liban. Donc il est possible que ce soit des seconds couteaux qui aient été remis tout simplement. Sur la communauté alaouite, en elle-même, il faut toujours faire attention, c'est de ne pas faire porter à cette communauté plus qu'elle ne le mérite. C'est-à-dire que, effectivement, une grande partie du clan au pouvoir était issue de la communauté alaouite, avait un pouvoir réel souvent plus important que des postes institutionnels pourtant assez élevés au sein de la hiérarchie syrienne. Mais pour autant, il y a énormément d'Alaouites qui étaient pauvres, qui ont beaucoup souffert en termes de proportion. C'est la communauté qui a perdu le plus d'hommes durant la guerre. Et au fil des dernières années, je pense en particulier à partir de 2018-2019, quand la crise économique en Syrie a pris un nouvel essor, un nouvel élan, la communauté alaouite s'est sentie de plus en plus prisonnière de Bachar el-Assad, et une partie d'entre elles, en tout cas de ce que j'ai pu comprendre, a quand même accueilli la chute du régime comme une libération.
Comment devrait-on, Garance Le Ken, juger les proches, les membres de ce clan Assad aujourd'hui, selon ceux que l'on parvient à récupérer ou à retrouver? Est-ce qu'il faut faire appel à une forme de justice internationale, ou c'est à la justice syrienne, celle qu'on s'apprête à reconstruire, qu'il faudra les confier, tout simplement parce que la révolution elle-même est syrienne?
Bah oui, c'est en fait, c'est ici là, une fois que le système judiciaire syrien sera mis en place, ce sera à lui de juger les propres criminels. Pour l'instant, la plupart, les hauts bonnets, les hauts dignitaires sont effectivement à l'étranger, mais il y a tout ce niveau intermédiaire, en fait, et puis les petites mains qu'il va falloir aussi arrêter, parce qu'en fait, les hauts dignitaires, on les connaît tous. Les Syriens, dès 2011, ont dû documenter d'une manière absolument extraordinaire toutes les exactions commises en Syrie, que ce soit au niveau des attaques chimiques, au niveau des bombardements des quartiers civils, au niveau de la torture, des disparitions forcées. Les procureurs en Europe n'ont pas un problème de preuve, ils ont un problème de faire le tri dans tous les documents. Donc il y a une documentation incroyable, notamment pour les hauts dignitaires. Maintenant, il y a énormément de documentation qui est en train d'être rassemblée en Syrie même, parce qu'en fait, l'ouverture des prisons, l'ouverture des centres de détention, l'ouverture même du palais présidentiel ont permis à beaucoup de Syriens de mettre la main sur une documentation qui va permettre de mieux comprendre le fonctionnement du régime et de mieux comprendre en fait de ce qui s'est passé de haut en bas et puis de bas en haut. Donc, mais qui va pouvoir juger ? C'est d'abord aux Syriens de juger. Tant que le système n'est pas mis en place, il y aura encore, je pense, et j'en ai entendu parler là, même depuis le 8 décembre, il y aura encore des procès en Europe, parce qu'il y a des criminels syriens, des anciens membres du régime, qui sont en Europe, qui ont été arrêtés, et il y a des procédures judiciaires contre eux. Donc, eux seront jugés en Europe, et puis le système judiciaire syrien va se mettre en place, et après, ce sera à eux de juger. Ça les concerne plus que nous. Nous, on a été là, l'Europe a été là, parce qu'il n'y avait pas de système judiciaire syrien, et que Bachar el-Assad étant à la tête du pays, il était impossible de juger des criminels de son propre régime. Mais une fois que ce régime est parti, et toute la documentation, les avocats vont redonner tout ça aux Syriens eux-mêmes.
Camille Neveu, pour reconstruire la société syrienne, il faut aussi reconstruire son économie. Je voudrais rappeler quelques chiffres absolument effarants. Selon la Banque mondiale, l'an dernier, le produit intérieur brut du pays avait diminué de 54% entre 2010 et 2021. En réalité, ce serait plutôt même un recul de 83% du produit intérieur brut, hein, selon d'autres données. Pétrole, agriculture, commerce, tout s'est effondré durant ces 13 années. Est-ce que la première étape, c'est la levée des sanctions économiques internationales ?
Évidemment, et c'est ce que tous les Syriens espèrent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez aussi beaucoup de Syriens qui, de fait, se sont exilés à cause du régime, à cause de la guerre, etc. Et qui, aujourd'hui, en Europe, en Allemagne, en France, se demandent comment est-ce qu'ils vont aider à la reconstruction de leur pays. Et notamment, ils prennent contact avec des entreprises, hein, du BTP, du recyclage, en France, en Allemagne, dans d'autres pays, pour essayer de les inciter à participer à la reconstruction de cette Syrie, pour pas laisser uniquement ce gâteau que regardent avec gourmandise l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la Turquie ou même la Chine. Mais cette reconstruction-là avec l'Europe ne peut se faire que si les sanctions sont levées. Après, il y a quand même des signaux positifs qui ont été envoyés par le groupe HTC, qui a dit notamment vouloir ouvrir le pays à une économie libre, capitaliste, j'ai envie de dire normale. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'au 8 décembre, les Syriens opposés au régime ne mettaient pas leur argent à la banque. Par exemple, mon conjoint, qui est arrivé en France en 2015, il ne savait pas ce que c'était qu'un compte en banque, une carte bancaire et un chéquier. Parce que ça ne se faisait pas, en fait. On savait que quand on mettait son argent à la banque, on le mettait à la banque des Al-Assad. Donc il y a aussi toute une mentalité qu'il va falloir changer, mais je pense que le pays est prêt.
On a beaucoup dit aussi, Anthony Samrani, que cet État, l'État syrien, était parfois considéré comme un narco-État, notamment parce que l'armée même de Bachar al-Assad organisait la production du Captagon et sa dispersion dans l'ensemble du Moyen-Orient. Est-ce que le groupe HTC s'est prononcé sur ce sujet, qui est quand même une rente économique extrêmement forte aujourd'hui pour le pays ?
Alors, d'une part, on a vu de nombreux reportages qui montraient justement ces entrepôts de Captagon, parfois ces usines qui sont en Syrie, mais aussi au Liban. Donc, je pense que le simple fait de les avoir dévoilés montre une volonté du nouveau pouvoir de tirer un trait sur cette époque, d'autant plus que c'est une condition sine qua non pour l'Arabie Saoudite. Le principal destinataire du Captagon syrien, c'était la jeunesse saoudienne. La normalisation saoudo-syrienne s'était faite notamment avec l'espoir que Bachar el-Assad cesse ce trafic. Il ne l'a jamais fait. Le nouveau ministre syrien des Affaires étrangères a prévu de faire sa première visite en Arabie Saoudite. C'est une clé pour l'intégration de la Syrie dans le monde arabe. C'est une clé pour financer la reconstruction. Donc je pense que le nouveau pouvoir n'a aucun intérêt à se mettre à dos les autorités saoudiennes sur un tel sujet. Mais effectivement, renoncer à cette rente de plusieurs milliards par an, ça va être compliqué. On peut toutefois arguer du fait que le pétrole rapporté à la Syrie à peu près 15 milliards avant le début de la guerre, donc avant 2011, avant le début de la révolution, si la production de pétrole retrouve son niveau, ça peut être une entrée importante pour les caisses de l'État.
Je voudrais vous faire entendre l'extrait d'un reportage diffusé sur France 24 le 13 décembre dernier. Il était intitulé « Les rescapés de l'enfer des geôles d'Assad ».
Un des détenus nous a expliqué que les gardiens montaient du sous-sol pour les torturer ici. Regardez, là, si je mets un peu de lumière, ce sont des menottes. Ils les utilisaient pour suspendre les prisonniers. Seul le bout des orteils touchait le sol. Et ces cordes servaient à les attacher. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ils restaient comme ça 8 à 10 heures sans manger, sans boire, jusqu'à l'évanouissement. Puis ils les jetaient à nouveau en cellule.
Garance Lequen, recoudre le tissu social syrien, c'est aussi réinsérer, tenter de réinsérer ces dizaines de milliers de Syriens qui ont connu les geôles, la prison, l'horreur de la torture durant au moins 13 ans. Comment peut-on procéder pour justement permettre à ces personnes de revivre au sein de cette société ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que c'est une tâche extrêmement compliquée. Il faut comprendre que la torture, elle n'est pas là pour vous faire parler, mais elle est là pour vous faire taire. Elle est là pour vous briser. Une fois que vous avez été torturé, Jean Améry le disait lui-même, hein, ce résistant communiste qui a été torturé avant d'être envoyé en camp de concentration, une fois que vous avez été torturé, vous, quelque part, vous n'appartenez plus à notre monde et votre vie n'est plus jamais la même. Et ils ne retrouvent ces gens-là. Enfin, c'est peut-être un peu pessimiste ce que je dis, mais je pense qu'il faut être réaliste. Ces gens-là ne retrouveront pas leur place. Ils retrouveront une autre place, mais pas la leur. C'est pas possible. On ne sort pas indemne de torture. Et la torture, ce qu'il faut comprendre aussi, ce ne sont pas que des coups. La torture, ce sont des conditions de détention. Ce sont le manque de nourriture quand vous êtes emprisonné. Je suis allée à Sednaya, donc cette prison qui était dont on a beaucoup parlé parce que ces portes ont été ouvertes le 8 décembre. Et vous voyez les cellules. Enfin, il y a trois ailes dans Sednaya et puis toutes les cellules sont ouvertes. Il y a des couvertures au sol, évidemment, il n'y a pas de lit, hein, et les détenus ne dorment à tour de rôle, puisqu'ils n'ont pas, ils sont trop nombreux dans les cellules. Et en fait, quand vous allez dans le couloir, vous voyez toutes ces cellules ouvertes. Voilà. Et puis en fait, je ne sais pas pourquoi, je suis rentrée dans une cellule et j'ai fermé la porte. Et là, c'est. J'ai pas de mots, quoi. En fait, c'est le noir total. Enfin. Pas total, il y a juste un petit peu en bas, là, en bas de la porte, il y a une sorte de d'aération. Donc vous avez un peu de lumière qui sort là. Je pense que je pense qu'ils ne retrouveront pas leur place. Ils retrouveront une place. Je réfléchis en vous parlant. Hein. Il y a tous ces gens donc qui sont sortis, les casques blancs, donc cette défense civile qui s'occupait des civils bombardés par le régime, notamment à Alep et à Idlib, qui est arrivé à Damas, s'occupe des prisons et des fosses communes. Ils évaluent à 20 000 les détenus qui ont été libérés. Il y avait 100 000 disparus, dont on a les noms. Et on estime qu'ils sont peut-être 200 000. Donc ça veut dire que vous avez certainement 180 000 personnes qui ne sont pas sorties. Donc il y a ces familles aussi, qui pour elles, ça a été à la fois une joie immense ce 8 décembre, et puis en même temps, l'espoir qui s'est arrêté d'un coup, puisque leur proche n'est pas sorti. Donc il est décédé. Et où est-il aujourd'hui ? Il est dans une de ces 70 fosses communes au minimum qui sont disséminées dans tout le pays. Et ces gens-là, ces familles qui ont été quelque part pulvérisées par ces disparitions forcées, comment aussi vont-elles vivre ? Parce que certaines vivaient encore avec de l'espoir. Et il m'a été rapporté, c'est pas un témoignage direct, mais il m'a été rapporté qu'une femme, en fait, a dit « J'aurais préféré que la prison ne soit pas ouverte. » Parce qu'en fait, son fils n'est pas sorti. Et elle sait aujourd'hui que son fils est décédé, mais elle ne sait pas comment, elle ne sait pas quand, et surtout elle ne sait pas où est son cadavre. Donc c'est vraiment, il y a cette maturité des Syriens qui a toujours été absolument incroyable, et ce sont des gens qui, enfin, moi j'ai du mal à expliquer d'où vient cette maturité, mais les casques blancs, puis je vais arrêter parce que sinon je vais trop parler, mais les casques blancs par exemple se sont formés avec des Guatémaltèques à l'ouverture des fosses communes. Il y a de ça plus de 2 ans. Enfin, il y a un an et puis il y a aussi 2 ans. Enfin, ils ont suivi plusieurs formations, c'est-à-dire bien avant l'idée que le régime puisse tomber. Donc, il y a cette maturité qui fait que, voilà, ils vont devoir prendre à bras le corps cette souffrance incroyable qui touche toutes les familles syriennes, parce que si c'est pas votre frère, votre père, votre sœur qui a été arrêtée, qui a disparu, c'est votre meilleur ami. Donc en fait, c'est votre frère. C'est la même chose hein, en Syrie. Les relations sociales sont extrêmement fortes. Donc en fait, toutes les familles sont touchées par ça. Et la disparition forcée, c'est un crime qui se perpétue d'une génération de génération en génération, puisque vous avez un trou dans la mémoire. Vous avez un trou dans la mémoire familiale qui est transmise et vous ne pourrez jamais le combler puisque c'est le principe d'une disparition. Et ça, voilà, ça va être extrêmement difficile, je pense.
Camille Neveu, est-ce qu'il vous semble, vous-même, que la société syrienne est prête à accueillir la parole de celles et ceux qui ont connu, justement, ces prisons, cette torture, leur horreur? On sait depuis, évidemment, la sortie de toutes ces personnes qui sont sorties des camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale, à quel point il est important, fondamental même, de pouvoir accueillir la parole, des témoignages. Est-ce que la société syrienne est prête à écouter aussi?
Après 2011, en fait, il y a beaucoup de Syriens donc, qui ont fui le pays et qui, depuis la Turquie ou depuis l'Europe, ont fondé en fait des associations de soutien à ces familles de disparus. Notamment, il y en a une qui s'appelle Famille pour la Liberté, une autre qui s'appelle Taafi. Donc voilà, on revient toujours sur cette maturité totalement impressionnante des Syriens. Et vous avez dans ces associations-là des gens qui sont capables d'aider ces familles un peu. Moi, ce qui m'a extrêmement bouleversé au moment le 8 décembre quand le régime est tombé et quand les prisons se sont ouvertes, c'est de voir tous ces documents en fait, tous ces cartes d'identité, tous ces registres avec tous ces noms de disparus, et puis voilà, le régime a noté avec minutie à la fois l'identité mais aussi ce qu'il advenait de ses prisonniers, un peu à la manière du régime nazi. Et donc on a vu tous ces documents dont certains étaient traînés par terre dans la boue parce que la prison de Sednaya, les autres prisons se sont ouvertes un peu dans l'euphorie et de manière extrêmement rapide. Et donc voilà, je pensais à toutes ces familles qui cherchent en fait ces informations et qui peut-être n'auront pas tout de suite vent de ce qui s'est passé pour leurs proches, parce qu'on a vu aussi des gens partir avec des sacs plastiques remplis de documents sans vraiment savoir quoi en faire. Alors aujourd'hui, les Casques Blancs et d'autres associations, comme disait Garance Le Ken, essayent d'organiser tout ça, pour à la fois collecter des preuves pour pouvoir juger les bourreaux, mais aussi pour pouvoir donner à ces familles des nouvelles. Et toutes ces associations là pour les familles de disparus sont aujourd'hui extrêmement mobilisées, travaillent avec les Casques Blancs, travaillent aussi avec Human Rights Watch qui a envoyé tout de suite une mission sur place pour pouvoir essayer de réunir tout ça et puis de si je puis me permettre l'expression, de rassembler un petit peu les pièces du puzzle pour donner des nouvelles à ces familles de leurs disparus.
Je voudrais continuer de tirer avec vous trois le fil qui pourrait permettre de recoudre cette société syrienne, ce tissu social. Anthony Samrani, je voudrais évoquer avec vous la mise sur pied de forces armées nationales qui est devenue une priorité, selon ces dires du nouveau dirigeant de la Syrie, Ahmad al-Shara, de son nom de guerre Abu Mohamed al-Joulani. Quel est l'enjeu autour de la création de cette armée syrienne nationale?
Il y a deux enjeux. Le premier, c'est que l'armée a été complètement détruite, non seulement par la guerre, mais ensuite, disons que le dernier coup a été porté par Israël au moment de la transition de pouvoir, au moment de la chute du régime et les jours qui ont suivi. Les Israéliens ont mené énormément de frappes qui ont fini donc de détruire cette armée. Et l'armée est une nécessité pour des questions de sécurité, pour lutter contre les groupes les plus radicaux en Syrie, pour aussi protéger sa souveraineté aux frontières. La Syrie est aujourd'hui un pays qui est occupé à la fois par des forces israéliennes, les forces américaines sont présentes et les Turcs ont des ambitions qu'ils ne cachent même pas. Et le deuxième grand enjeu, c'est de faire en sorte que l'État retrouve le monopole de la violence légitime. Donc les factions armées soient totalement dissoutes et qu'elles soient intégrées au sein d'une institution plus nationale. Les négociations se passent plutôt bien à ce niveau-là. De nombreux groupes ont déjà dit qu'elles allaient le faire ou qu'ils l'avaient déjà fait. Le principal enjeu va être effectivement avec les forces kurdes à l'est et au nord de la Syrie, parce qu'elles craignent le nouveau pouvoir, parce qu'elles ont un projet peut-être d'autonomie plus important que dans d'autres régions, et parce que les Turcs multiplient les signaux inquiétants, que le pouvoir turc continue de dire qu'il veut les éradiquer, donc c'est très difficile de déposer complètement ses armes quand vous avez un voisin qui promet de vous annihiler.
Oui, parce que ce qu'il faut préciser, Camille Neveu, c'est que les forces démocratiques syriennes, les FDS, qui sont largement dominées par les Kurdes aujourd'hui, n'ont pas accepté l'accord proposé par Damas, par HTC. Est-ce que c'est un danger, ça, pour la constitution d'une armée nationale et même au-delà pour la souveraineté syrienne dans son ensemble ?
Oui, parce que la coalition HTC a bien fait comprendre qu'elle voulait que ce territoire qui est détenu au nord-est par les Kurdes fasse partie intégrante de la Syrie. Et donc, effectivement, il risque d'y avoir à un moment divergence de vues, c'est déjà le cas d'ailleurs. Autant Ahmad al-Sharih a réussi à discuter avec les factions du sud qui viennent notamment de Deraa, de Soueida, qui sont remontées vers Damas en fait au même moment que la coalition HTC descend. Après Alep, puis Hama, puis Homs, il a réussi à discuter avec ses factions, ce que disait Anthony Samrani. Autant avec les FDS, effectivement, ça va s'annoncer beaucoup plus compliqué.
Anthony Samrani, vous l'avez dit, la souveraineté syrienne, elle est aujourd'hui pas totalement, j'allais dire, assurée. Il y a évidemment la question du plateau du Golan, où Israël avance peu à peu ses pions. Il y a évidemment au nord la Turquie qui menace aussi de grignoter une part du territoire. Dans le nord-est de la Syrie. Également, les forces spéciales américaines sont en présence pour officiellement lutter contre Daesh. Est-ce que le nouveau pouvoir à Damas entend se libérer de ces trois présences sur son propre sol ?
C'est un pouvoir qui, pour l'instant, est extrêmement pragmatique et notamment dans ses relations vis-à-vis des pouvoirs étrangers. C'est-à-dire qu'il négocie avec les Russes, il a négocié le maintien des bases russes à l'ouest de la Syrie. Comme je vous le disais tout à l'heure, il prévoit de faire son premier voyage en Arabie Saoudite, donc c'est un signe d'ouverture très important vers le monde arabe. Il ne ferme pas complètement la porte à l'Iran, alors que l'Iran a été, avec la Russie, l'un des principaux acteurs du maintien de Bachar el-Assad au pouvoir. Il est très très proche des Turcs. Les Turcs ont joué un rôle majeur dans la chute du régime syrien. Tout n'est pas encore très clair à quel point c'était préparé, à quel point ça a été coordonné. Mais le simple fait que le chef des renseignements turc arrive à Damas deux jours après la chute de Bachar el-Assad dit tout de même beaucoup. Et il envoie aussi des signaux plutôt d'apaisement avec Israël, malgré un jeu israélien. Allô ?
Oui, on vous entend parfaitement.
Oui, pardon, je dis, il envoie aussi des signaux très apaisants vis-à-vis d'Israël, alors qu'Israël joue un jeu très dangereux dans le Golan. Donc je pense que pour l'instant, sa priorité n'est pas d'attaquer sur tous les fronts parce qu'il n'en a pas les moyens. Sa priorité, c'est de sécuriser son pouvoir, d'affirmer sa légitimité. Et peut-être, et c'est peut-être là l'élément le plus inquiétant pour le moment, c'est que autant Ahmad al-Sharih fait des déclarations très ouvertes, montre qu'il a appris, est en train d'évoluer à une vitesse folle, fait preuve d'inclusivité dans les messages. On voit notamment les fêtes de Noël et de fin d'année qui se sont très bien déroulées. Et en même temps, il est en train de confisquer le pouvoir. Il nomme que des gens qui lui sont très proches aux postes les plus importants. Et ça peut être assez inquiétant pour la suite.
Camille Neveu, vous souhaitiez réagir ?
Oui, je voulais rebondir sur l'ingérence des puissances étrangères. Aujourd'hui, les Syriens ne sont ni naïfs ni dupes de cette nouvelle coalition. Ils sont vigilants, ils regardent avec attention ce qui va se passer avec la grande conférence sur le dialogue national qui va être lancée, qui va réunir donc selon le pouvoir, plus de 1000 personnes, des représentants de 14 gouvernorats. Néanmoins, moi, ce qui m'a surpris en discutant avec des Syriens ces derniers jours, c'est que beaucoup ont peur que Ahmed al-Sharih soit éliminé par une puissance étrangère qui voudrait lancer une contre-révolution en Syrie. Et ils savent que ce ne sera pas forcément l'homme des prochaines décennies, mais pour eux, c'est quand même l'homme de la situation. Ils attendent de voir ce que ça donne, ils attendent de voir ce que donnera le processus électoral, l'élection d'un prochain président qui pourrait advenir d'ici 4 ans. Hein. Au départ, Ahmed Al-Sharaa avait parlé du mois de mars, et puis finalement, il s'est rendu compte que ça allait être beaucoup plus compliqué de recenser 13 millions de déplacés et de réfugiés et d'organiser ces élections. Mais voilà, il y a quand même cette vigilance et à la fois cette peur que la fin de la dictature bascule et cette période d'espoir qui s'ouvre bascule dans quelque chose de beaucoup plus dramatique si jamais lui venait à être éliminé, parce qu'il tient quand même aujourd'hui le pays malgré tout.
Vigilance qui concerne évidemment également la situation des femmes.
On les salue, ils répondent. On les félicite, ils répondent. J'espère de tout mon cœur que les choses resteront telles qu'elles sont. Parce que si jamais ils commencent à opprimer les femmes comme nous, qui nous ressemblent, c'est-à-dire les gens qui sont ouverts, avec des convictions qui sont très ouvertes, d'accord, nous allons lutter.
On est unis malgré nos différences et on fera en sorte que ça reste comme ça.
J'espère qu'ils laisseront les femmes étudier et faire ce qu'elles veulent de leur apparence physique. Comme ma fille, avec ses cheveux libres.
Garance Lequen, est-ce que les Syriennes, le Syrien que l'on vient d'entendre à l'instant, ont raison d'être dans l'attente, de se méfier quant à ce qui attendra justement les Syriennes et les femmes en Syrie au cours des prochains mois et des prochaines années ?
Alors c'est compliqué de dire si elles ont raison ou pas. En tout cas, elles se méfient et c'est normal. C'est normal parce que sortir d'autant d'années de dictature et se retrouver avec un pays pour l'instant géré par HTS peut être inquiétant. En même temps, Camille l'a très bien expliqué, c'est-à-dire que Ahmed El-Sharaa est vraiment l'homme de la situation pour le moment. Ils ont quand même réussi à faire tomber un régime avec quand même très peu d'effusion de sang, très peu d'exactions. Personne d'autre avait été capable de le faire avant. Et on sait que Ahmed El-Sharaa est extrêmement pragmatique. On voit comment il a évolué dans l'enclave d'Idlib et comment il a dû s'adapter en fait à la population qu'il gérait. Là, ça va être la même chose. Alors, évidemment, il doit gérer un pays entier, donc c'est une autre dimension. Mais ces femmes savent très bien qu'elles peuvent aujourd'hui descendre dans la rue et elles peuvent faire entendre leurs droits. Et Ahmed El-Sharaa le sait aussi. Il ne pourra pas ne pas tenir compte de la population. Mmh. Et ce qu'a dit Camille est vraiment, vraiment important, c'est-à-dire que il y a des craintes que lui-même soit abattu par une puissance étrangère ou même par des gens nettement plus extrémistes que lui au sein de la coalition, parce qu'en fait, ce qu'il est en train de faire là ne plaît pas à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens au sein de la coalition qui sont beaucoup plus durs et qui trouvent qu'il s'ouvre trop, en fait. Donc, il doit à la fois être pragmatique, il doit montrer à la société syrienne qu'il va prendre soin de toutes les communautés, de toutes les ethnies. En même temps, il ne peut pas se mettre totalement à dos les plus extrémistes parce qu'effectivement, il pourrait être tout simplement éliminé. Il joue un jeu extrêmement difficile, mais de toute façon, j'ai envie de dire, les Syriens n'ont pas le choix. Et s'il y a un moindre problème, ils savent qu'ils peuvent descendre dans la rue maintenant.
Merci beaucoup à tous les trois de ces discussions sur la société syrienne, sur les façons dont elle peut aujourd'hui tenter de se relever. Camille Neveu, vous êtes chef adjointe du service étranger de Libération, autrice de cet ouvrage intitulé « Le verger de Damas ». Anthony Samrani, rédacteur en chef de L'Orient le Jour, et vous avez fait paraître aux éditions Tract chez Gallimard « Vue du Liban ». Garance Lequen, journaliste à la Tribune Dimanche, et vous êtes revenu de Syrie. Merci pour ces témoignages et ces analyses.